Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Rangeons notre palette et notre chevalet. Après la quatrième exposition des impressionnistes, à laquelle participait notre artiste pour la première fois. Et allons découvrir de ce pas, en terre parisienne, sa nouvelle passion. Bienvenue chez Marie Stevenson Cassatt. Ludovic Halévy, romancier et parolier, ami d'enfance de Degas, témoigne dans un écrit de ses carnets du 16 mai 79 de l'euphorie qui gagne les indépendants suite à leur performance à cette manifestation. L'idée de Degas de créer une revue commence à germer.
Visite à Degas. Je le rencontre en compagnie de l'indépendante Miss Cassatt, un des exposants de la rue de la Paix. Ils sont fort excités. Ils ont chacun pour leur exposition 440 francs de bénéfices. Ils pensent fonder un journal. Je demande à y écrire. La gravure, tout un art.
La création de ce journal va occuper une partie du groupe impressionniste. Degas fédère autour de lui Félix Braquemont, graveur, Camille Pissarro, connaisseur en eau forte et en gravure, puisqu'il s'y est déjà exercé en 73 avec Paul Cézanne et Armand Guillaumin chez le docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. Edgar invite aussi Raffaelli, son protégé, Henri Roir, son ami d'enfance. Quant à Gustave Caillebotte, il avance l'argent nécessaire au projet. L'imprimeur est déjà contacté en la personne d'Alfred Salmon. Marie Cassatt a déjà appris à graver auprès de Charles Bellet. Elle bénéficie des conseils de Degas pour cette technique. Il imprime lui-même ses estampes sur sa presse et lui recommande d'œuvrer à même la plaque de cuivre.
Pour avoir un trait pur en dessin, apprenez à dessiner sur le cuivre. Cela ne pardonne pas.
Marie s'initie, s'exerce de son mieux, rate parfois et recommence. Degas raconte alors à Pissarro.
Miss Cassatt fait des essais délicieux de peinture.
Malheureusement, cette aventure va tourner court. Ludovic Halévy n'aura pas l'occasion d'écrire une seule ligne, puisque le portfolio, le jour et la nuit, ne paraîtra jamais. Ce qui devait être un journal consacré à la gravure, un recueil d'estampes en noir et blanc, ne restera qu'un rêve. Et une déception pour Catherine Cassatt, mère de Marie. En effet, dans une lettre à son fils Alexander, elle s'indigne ainsi au sujet d'Edgar Degas. Comme toujours, le temps venu, il n'était pas prêt, de sorte que le jour et la nuit, qui auraient pu connaître une grande réussite, n'a pas encore paru. Degas n'est jamais prêt pour quoi que ce soit. Cette fois, il leur a fait rater une belle occasion. Chacun se rejetant la faute, Edgar, qui pourtant n'a pas commencé, s'en prend à Félix Braquemont. Il lui rédige alors quelques lignes en ce sens.
Il faut causer du journal. On a fait avec Pissarro quelques essais, dont l'un de Pissarro est déjà un résultat. Mlle Cassatt y est en plein en ce moment.
Le projet aura eu le mérite de conforter Marie dans cette nouvelle technique qui est la gravure, un art dans lequel, par la suite, elle va exceller. À cette époque, Edgar Degas produit deux tableaux où il met en scène son ami. Marie Cassatt au Louvre, la galerie des Étrusques, une eau forte et aquatinte, dont le cinquième état est à la Bibliothèque nationale de France. Et Marie Cassatt au Louvre, la peinture, eau forte et aquatinte, dont le 20e état est à Paris également. Nous y apercevons la peintre, de dos, habillée élégamment, appuyée sur son parapluie, qui admire d'une part les sculptures du sarcophage des époux de Servetterie, et d'autre part des tableaux pendant que sa sœur Lydia, assise, commente le catalogue des œuvres. Ces estampes, ainsi que celles de Marie Cassatt au théâtre, paysage sous bois à l'Ermitage de Pissarro et le chiffonnier éreinté de Raffaelli auraient dû paraître dans le portfolio le jour et la nuit. Bien plus tard, en rendant visite à Ambroise Vollard dans sa galerie, Degas s'arrêtant devant le tableau de Marie, la petite fille au canapé bleu déclarera
« Elle a tellement de talent. Je me souviens que nous avons fondé ensemble le jour et la nuit. Ce que j'étais pris par la gravure. Tous ces essais que j'ai faits avec le cuivre. On obtient des choses extraordinaires, mais personne ne veut nous aider. »
Justement, allons découvrir de ce pas comment l'artiste travaille dans son atelier.
L'instant pratique.
Marie va se lancer dans la gravure, égalant ainsi Félix Braquemont, Edgar Degas, Camille Pissarro et ses eaux fortes. Elle innove, imagine, improvise en la matière. Sur sa plaque de cuivre, elle travaille avec des coloris, des empattements, des glacis. Elle applique la résine selon ses propres recettes sur les fonds de cuivre. Elle y appose l'acide ou le vernis, refaçonne le tout, retravaille à la pointe sèche, ponce, replonge dans l'eau forte. Quand arrive le tirage, elle diversifie les teintes, frotte certaines parties. Puis, en cette année 79, elle fait un séjour en Angleterre et en Suisse.
Autoportrait.
Edgar Degas croque l'artiste dans une attitude un peu similaire à celle de l'autoportrait de 78, dans Portrait de Marie Cassatt, aussi à Washington. D'après certaines sources, le tableau est daté de 77-78, pour d'autres, quelques années plus tard, vers 80-84. Assise dans une chaise, coiffée d'un chapeau beige, le buste légèrement penché en avant, elle nous présente trois cartes, comme une cartomancienne. Là aussi, le fond est peint sommairement. À propos de ce tableau, peu avantageux selon elle, elle avouera à Durand-Ruel en 1912-13. Je désire ne pas le laisser à ma famille comme étant un portrait de moi. Il a des qualités d'art, mais il est si pénible et me représente comme une personne si répugnante que je ne voudrais pas qu'on sache que j'ai posé pour cela.
1880.
De futurs peintres, écrivains naissent en 1880, tels André Derain, Guillaume Apollinaire, tandis que d'autres disparaissent, comme Gustave Flaubert. En France, la fête nationale est instituée le 14 juillet et les filles vont pouvoir poursuivre leurs études au lycée avec la création des lycées de filles. La 5e exposition des impressionnistes a lieu du 1er au 30 avril 80 au 10 rue des Pyramides. Degas y règne en maître avec ses amis Braquemont, Pissarro, Raffaelli, Forain, Morisot et Cassatt entre autres. Caillebotte est aussi présent, mais sans Monet, Renoir et Sisley. Marie expose 8 tableaux et pastels, dont le thé, et 8 eaux-fortes réalisées pour le mémorable journal Le Jour et la Nuit. Le thème, cher à Marie Cassatt de la maternité, commence à apparaître. Elle reçoit la visite de son frère Alexander, de sa femme et des 4 enfants, Édouard, Catherine, Robert et Elisabeth. Ces derniers vont lui servir de modèle. Ils passent ensemble l'été à Marly-le-Roi, Louveciennes, où elle peut croquer chacun tout à loisir. Elle convainc son frère d'acheter, d'investir dans les tableaux impressionnistes, notamment de Degas. Sa collection sera une des premières d'Amérique. Au cours de l'année 79-80, Marie s'est adonnée à la gravure. Elle produit Scène d'intérieur, La visiteuse, une eau-forte à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Au spectacle, également à Paris, qui nous dépeint une femme de profil, assise dans une loge à l'opéra, un éventail dans sa main gauche, et aussi un pastel sur papier, Lydia dans la loge, au théâtre, à Kansas City, Missouri. À la fin de l'été, Marie revient à Paris. Degas en profite alors pour lui rendre visite. Dans une lettre à son ami Roir, il lui raconte le 26 octobre.
Les Cassatt sont revenus de Marly. Mademoiselle Cassatt s'installe dans un atelier au rez-de-chaussée qui ne me paraît pas bien sain. Ce qu'elle a fait à la campagne fait très bien au jour de l'atelier. C'est beaucoup plus ferme et plus noble que ce qu'elle avait l'année passée. La 6e exposition.
En 1881, Marie Cassatt expose à la 6e manifestation en avril, 6 au 35 boulevard des Capucines, dans une annexe de l'atelier du photographe Nadar. Elle y exhibe 11 pastels et tableaux. 2 œuvres représentent le duo mère-enfant. 2 autres, des portraits de Lydia, sa sœur, dans Le thé et Lydia lisant dans le jardin. Une de sa mère, Madame Cassatt, fait la lecture à ses petits-enfants. Un tableau nommé L'automne. Certaines de ces représentations ont été exécutées durant la saison estivale de l'année précédente. Une fois de plus, Degas domine avec ses amis, puisque ni Caillebotte, Renoir, Monet, Sisley ne participent. Edgar impose ses favoris, Raffaelli, Forain, Sandro Meneghi, Tillot, dont le style est plus classique. L'unité du groupe initial n'est plus qu'un vague souvenir. Le marchand d'art, Paul Durand-Ruel, commence à acquérir quelques-unes des toiles de Mademoiselle Cassatt, prélude à une longue coopération. Les œuvres mère-enfant, qui annoncent une grande série pour les années futures, sont soulignées par l'écrivain Joris Carl Huysmans.
Une artiste qui ne doit plus rien à personne maintenant. Une artiste toute primo-sautière, toute personnelle.
Ou encore,
seule la femme peut poser l'enfant, l'habiller, mettre les épingles sans se piquer.
Charles Efrussi, banquier et collectionneur d'art, note.
Mlle Cassatt s'est acharnée à porter son organe visuel à un état de sensibilité, de nervosité, d'irritation même, tel qu'il peut saisir le moindre frémissement de la lumière, le moindre atome colorant, les moindres teintes de l'ombre.
Pour Marie, c'est le début de la reconnaissance. Justement, allons découvrir maintenant quelques-unes de ses dernières créations.
Du côté du musée.
Au cours de l'année 80, l'artiste produit bon nombre de tableaux, dont sa sœur ou son frère lui servent de modèle. Jeune femme lisant dans un jardin, huile sur toile à l'Institut de l'art de Chicago, met en scène Nydia dans le jardin de la grande maison louée à Marie pour l'été 80, à l'occasion de la venue de son frère. C'est son premier tableau brossé en plein air. Sa sœur, habillée d'une longue robe blanche, agrémentée d'un châle blanc, pose un journal à la main, signe de la connaissance et du modernisme. Cette toile sera exposée en 1903 dans la galerie du Rang Ruel de New York. Portrait d'Alexander Cassatt, collection privée, le représente au salon, assis dans un fauteuil devant la bibliothèque. Jambes croisées, il a l'air sérieux. Lydia, le crochet dans le jardin, peint aussi à Marly-le-Roi en 80, la représente assise, drapée d'une robe bleue et d'un chapeau de dentelle, dans une allée de fleurs rouges foncées menant à la villa. L'automne, un portrait de Mademoiselle Cassatt, est au musée du Petit Palais de la ville de Paris. Peint aussi à Marly, Lydia est assise sur un banc, coiffée d'un chapeau noir et d'une écharpe assortie. Elle porte un manteau au ton automnal, les mains gantées croisées devant elle. Huysmans, en 83, rédigera dans l'art moderne.
J'écrivais l'an dernier que la plupart des toiles de Mademoiselle Cassatt rappelaient les pastels de M. Degas et que l'une d'elles découlait des maîtres anglais modernes.
La peintre fera don de cette toile en 1922 à la ville de Paris pour le musée du Petit Palais. La tasse de thé est à admirer au Metropolitan Museum of Art de New York. Lydia Cassatt est représentée coiffée d'un chapeau assorti à la robe rose-orangée, bordée d'une imposante collerette de dentelle blanche. Elle tient dans ses mains gantées de blanc une tasse en porcelaine, assise dans un confortable fauteuil noir à rayures violettes. À l'arrière-plan se trouve une jardinière de jacinthe en fleurs. Ce tableau, exhibé à l'exposition de 81, est très remarqué du public. D'ailleurs, Paul Durand-Ruel acquiert cette œuvre le 6 avril. 2 ans plus tard, Léon Clapisson, agent de change, la lui achète et la lui revendra l'année suivante. Le 10 août 1911, Durand-Ruel réussit enfin à céder ce tableau au collectionneur et banquier James Stillman. Cet homme, épris de la peinture de Cassatt, détiendra jusqu'à 26 de ses œuvres. Ses descendants feront don de sa collection au Metropolitan Museum of Art de New York. Un des premiers tableaux mettant en scène des enfants est un pastel esquissé sur papier gris sur carton, titré « Bébé bleu dans son landau, Baden Museum Langmatt en Suisse ». Le landau, la coiffe et le vêtement de l'enfant sont esquissés à grands coups vigoureux de pastel bleu, faisant ainsi ressortir la délicatesse et douceur du visage qui, lui, est estompé. Marie va à l'essentiel dans ses pastels, s'attarde sur les figures, mais délaisse le vêtement et le décor. Cette façon de dessiner donne parfois une impression d'inachevé dans sa composition. Au sujet des scènes de maternité, Huysmans rédige
« Ah, les bébés, mon Dieu! Combien de fois ces portraits m'ont-ils exaspéré? Toute une série de barbouilleurs français et anglais les ont peints dans des poses stupides et prétentieuses. Pour la première fois, grâce à Mademoiselle Cassatt, j'ai vu des portraits d'enfants admirables, des scènes d'intérieur paisibles, peintes avec une sorte de tendresse délicate, réellement charmante. »
Refermons à présent la porte du musée et restons encore quelques instants, la tête pleine de ces chefs-d'œuvre. Je vous laisse tout à vos souvenirs et vous donne rendez-vous très prochainement sur cette même antenne pour la suite de Voyage en Terre de Couleurs.